Ça va rester pour l'éternité, nos petites séances. Je suis très honoré de parler devant vous, bien entendu, mais en particulier devant Monsieur Didier de Cotigny, qui nous fait l'honneur de sa présence, qui est ce directeur artistique, j'allais dire presque irremplaçable, de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, grâce à qui nous avons les artistes extraordinaires qui viennent semaine après semaine. Je suis très heureux aussi, honoré de parler devant Julien Bourgeois, qui est notre percussionniste irremplaçable. Hein, voilà. Sans Julien Bourgeois, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ne serait pas l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et donc, voilà, nous sommes à la sixième séance. Alors, il a été annoncé, évidemment, l'orchestre philharmonique, enfin, ou l'orchestre de Monte-Carlo, parce qu'il ne s'appelait pas philharmonique à cette époque-là, et les ballets russes. Effectivement, il va être question de Diaghilev et de la présence des ballets russes à Monte-Carlo, mais pas uniquement, hein, puisque nous faisons une progression chronologique. Et nous sommes arrivés, et vous savez, ce qui m'a été demandé, c'est de situer la vie de l'orchestre dans la vie de la principauté. Alors nous allons évoquer les quelques événements qui ne sont pas musicaux, mais qui ont été si importants dans la vie de la principauté à ce moment-là. Nous sommes arrivés à l'année 1910. Nous avons commencé en 1856, lorsque le premier orchestre, il n'y avait que 20 musiciens à cette époque-là, a été créé sous Charles III. Et puis donc, on a progressé, on a progressé, on est arrivé au début du XXe siècle. Charles III ne règne plus sur la principauté. Il a été remplacé par son fils Albert Ier. Mais il y a deux personnages qui sont apparus dans l'histoire de la vie de l'orchestre philharmonique. C'est d'abord l'extraordinaire directeur de l'opéra de Monte-Carlo, qui est Raoul Gainsbourg, qui a été nommé en 1892 et dont je vous ai raconté un peu la vie, et qui va rester pendant presque 60 ans à la tête de l'opéra de Monte-Carlo. Ça a été un directeur vraiment extraordinaire qui a fait venir les plus grands solistes, les grands compositeurs, et qui a révolutionné la vie de la principauté de Monaco. Un autre personnage, c'est le chef d'orchestre qu'il a nommé, qui va rester, lui, une trentaine d'années à la tête de notre orchestre. C'est Léon Géin. Léon Géin, qui était compositeur, mais enfin, bon, il avait tellement d'activités qu'il n'a pas pu tellement composer, et il a dirigé les grandes œuvres qui se sont succédées à la programmation de cet orchestre. Pourquoi est-ce que j'étais arrêté en 1910 la fois dernière? C'est parce que c'est une année charnière dans l'histoire de la principauté, et même, j'allais dire, de la vie de l'orchestre. Souvenez-vous, nous étions arrêtés en mars 1910 lors d'un événement considérable dans la société monégasque, qui était l'inauguration du musée océanographique de Monaco. Pourquoi c'était important? Parce que, évidemment, pour le prince Albert Ier, qui avait passé sa vie à être sur les océans, à faire ses expériences scientifiques, c'était la consécration de la carrière. Le monde entier, enfin l'Europe entière, le monde entier allait voir dans ce bâtiment très audacieux, hein, qui est construit au-dessus de la mer, la totalité de ses recherches. Et puis, j'allais dire, il y avait une petite connotation musicale, puisque nous vous l'avions fait remarquer la fois dernière avec Didier de Cotigny, pour l'inauguration de ce musée océanographique, Albert Ier avait demandé deux compositions à deux compositeurs qui étaient ses amis, qui étaient Camille Saint-Saëns et qui étaient Massenet, de composer des œuvres pour cette inauguration. Donc voilà, nous en étions en 1910. Mais en 1910, il se passe des choses un petit peu curieuses et j'allais dire inquiétantes dans la vie sociale de la principauté de Monaco. Alors ce sont des choses, bon, dont on parle plus trop maintenant parce que c'est une période que l'on cache un peu dans l'histoire de la principauté de Monaco, mais qui a existé. C'est tout simplement la Révolution. Il y a eu en 1910 la Révolution à Monaco, et qui a abouti au fait que Monaco n'a plus été une monarchie absolue. Monaco était une monarchie absolue, hein, le prince avait tous les pouvoirs, Et puis, à partir de ce moment-là, il y a une constitution, c'est devenu une monarchie constitutionnelle, qui est la principauté de Monaco maintenant. Et les choses n'ont pas été très simples. Il y a eu en fait deux révolutions dans l'histoire de Monaco. Nous avions évoqué la première, c'était au moment de la Révolution française, en 1793, lorsque Monaco a été prise par l'armée française. Monaco n'a plus été, c'est des choses qu'on a un petit peu oubliées, Monaco n'a plus été une principauté pendant 20 ans. La principauté de Monaco a disparu au début du XVIIIe siècle et a été intégrée aux Alpes-Maritimes. Ce n'est qu'à la fin du Premier Empire que Monaco est redevenue une principauté. Et le prince a été destitué, c'était le prince Honoré III à cette époque-là, a été destitué. Alors, c'était la première révolution. Mais la seconde révolution a eu lieu donc en 1910. Et là, ma foi, il y a eu des manifestations assez considérables. On a vu des manifestants, on dit 800, 1000 personnes qui sont montées de la Condamine, qui sont montées jusqu'au palais princier pour essayer de prendre le palais. Et le prince Albert Ier n'était pas très fier. Alors, il a envoyé son chef de cabinet, le chef des, entre guillemets, révolutionnaires, est quelqu'un dont une rue de Monaco porte le nom, c'est Suffren Raymond. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était le chef des syndicalistes, le chef des manifestants. Et donc, tout de suite, le chef de cabinet du prince a accordé immédiatement, parce qu'il fallait que les manifestations cessent, le droit de la presse libre. Il pouvait y avoir des presses d'opposition et les opposants pouvaient manifester leur voix. Et puis, on était en mars 1910, au début du mois de mars 1910, le prince a obtenu quand même une trêve. Parce que, je vous ai parlé de l'inauguration du musée océanographique. C'était à la fin du mois de mars. Et il aurait été vraiment, j'allais dire, désastreux pour l'image de la principauté de Monaco si tous les gens venaient à l'inauguration de ce musée dont on avait tant parlé et trouvent une principauté en grève avec des manifestations. Donc, effectivement, les manifestants ont accepté cette trêve du mois de mars. Mais bon, l'inauguration a eu lieu, l'été est passé, mais en octobre, les choses ont repris. Il y a eu des manifestations encore plus importantes. Que s'est-il passé exactement? On ne sait pas, parce qu'évidemment, les journaux de l'époque ne racontent pas les manifestations. Certainement, des journaux américains disent qu'une partie du palais aurait été saccagée. Enfin, voilà. Bon. Ce qui est sûr, c'est que le prince Albert Ier, qui avait disparu, envoya face aux manifestants son fils, Louis II. Son fils Louis II, c'était le prince héréditaire, il avait 40 ans, c'est lui qui représentait l'avenir. Et le prince Louis II, qui avait des relations un petit peu difficiles avec son père. Je crois que j'avais eu l'occasion de vous raconter que le prince Louis II était né au moment où ses parents s'étaient divorcés et que le prince Albert Ier n'avait eu droit, je veux dire, à connaître son fils, à rencontrer son fils, qu'à l'âge de 10 ans, ce qui est quand même une chose très, très, très curieuse. Donc, il n'y avait pas de vrai rapport très affectueux entre Albert Ier et son fils Louis II. Il n'empêche que c'est Louis II qui a sauvé la situation et donc c'est lui qui a reçu les manifestants et qui a accordé finalement ce qui allait révolutionner la principauté de Monaco, à savoir l'abolition de la monarchie absolue et la possibilité de devenir une monarchie constitutionnelle. Et cette constitution a été signée au début du mois de janvier suivant, c'est-à-dire en janvier 1911. Donc, des changements considérables dans la vie de la principauté de Monaco. Et notre principauté continue à vivre, bien entendu, comme une monarchie constitutionnelle, même si sous Régnier III, il y a eu une autre constitution qui a été rédigée, mais enfin, dans la continuité de la première constitution de 1911. La vie artistique continuait quand même. Il avait beau y avoir des manifestations, l'opéra existait, Raoul Gainsbourg était là, à la tête de l'orchestre, et à la tête de l'opéra, je veux dire. Et dans ces années 1910 et 1911, des événements importants au plan artistique se sont passés. En particulier, l'arrivée d'un troisième personnage. Alors, le premier personnage, c'était Gainsbourg. Le second personnage, c'était Léon Géin, le chef d'orchestre. Le troisième personnage dont nous allons parler, c'est Diaghilev, qui va arriver, qui a été engagé en 1910. Mais auparavant, je peux vous dire qu'en 1910, pendant qu'il y avait tous ces événements, 1910-1911, il y a eu quand même à l'opéra de Monte-Carlo la création d'un opéra majeur de Massenet, qui est Don Quichotte. Don Quichotte a été créé sur la scène de la salle Garnier en 1911 avec un grand chanteur qui était Chaliapine. Et cette œuvre eut tellement de succès que très peu après, elle fut interprétée à Paris, à New York, à Saint-Pétersbourg, etc. Elle a fait le tour du monde. Et puis, en 1911, il y a eu également la création d'un opéra de Saint-Saëns qui était Déjanire, qui a été recréé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo l'année dernière. Et il y a d'ailleurs un magnifique enregistrement qui a été vraiment des succès de l'année dernière auprès des musicologues et des musiciens. Et je vais vous faire entendre un extrait de l'enregistrement réalisé l'année dernière par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je crois que c'est tout simplement la scène finale. L'enregistrement de Déjanire, enfin c'est la dernière scène par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo l'année dernière, et vous n'avez pas été sans remarquer le roulement de timbales. C'était Julien Bourgeois. Et c'était évidemment notre chef d'orchestre Kazuki Yamada qui a réalisé cet enregistrement. Voilà donc, en 1910, alors je vous ai dit, arrive un nouveau personnage dans la principauté de Monaco, c'est Serge de Diaghilev. Alors qui est Serge de Diaghilev? C'est quelqu'un qui a fait parler de lui en Russie. En Russie, on est au début du XXe siècle, et la révolution russe se prépare aussi. Et Diaghilev fait parler de lui comme un homme de culture, comme un homme qui aime entreprendre, qui aime produire des spectacles. Il a été remarqué par Lénine. Et Lénine lui a proposé d'être le ministre de la culture de la future URSS. Mais ça ne convient pas du tout à Diaghilev, qui vient à Paris. D'autres musiciens font de même à cette époque-là. Stravinsky quitte la Russie, Prokofiev quitte la Russie, l'écrivain Bounine qui quitte la Russie et terminera assez misérablement sa vie à Grasse, Chagall quitte la Russie, etc. Et puis les grands solistes, Nathan Milstein, Vladimir Horowitz, tous ces gens quittent la Russie à ce moment-là. et Diaghilev en particulier, qui s'installe d'abord à Paris, et puis qui, attiré par le soleil du Sud, et peut-être par une complicité avec Raoul Gainsbourg, sollicite d'être engagé à Monaco, et cela se fait en 1910. Le contrat est assez simple, il doit produire 16 ballets, à Monaco, et puis il va préparer également les ballets qu'il produira avec les ballets russes en tournée, et ça sera le Sacre du Printemps, Petrouchka, etc., tous ces grands ballets que vous connaissez. Et donc, dans la salle de répétition du casino, hein, en sous-sol, là où on passe devant, on peut avoir le vertige en imaginant que là, il y a les Nijinsky, les Nijinska, les Pavlova, les Karsavina qui ont été là. Enfin, c'est vraiment quelque chose, les Serge Liffard par la suite, c'est vraiment quelque chose de bouleversant d'imaginer que tous ces gens qui sont les plus grands, qui étaient les plus grands danseurs de l'époque, ont transpiré ici dans les sous-sols du casino de Monte-Carlo, dans la célèbre salle de danse qu'ont abandonné par la suite les ballets de Monte-Carlo. Mais le studio historique se trouve bien en contrebas du casino de Monte-Carlo. Et Diaghilev arrive donc pour sa première saison en 1911. Il arrive avec Nijinsky, dont il est l'amant, et il s'arrête à Beaulieu. Pourquoi il s'arrête à Beaulieu, en venant de Paris, sur Monaco? Eh bien, parce que Stravinsky est là. Et Stravinsky est en train de composer à Beaulieu, dans un appartement meublé qu'il a loué avec sa famille, le prochain ballet qu'il va donner avec les ballets russes, qui est Petrouchka. Et donc, il s'arrête à l'hôtel Bristol. Je ne sais pas si vous connaissez Beaulieu, il y a cet immense bâtiment qui est devenu évidemment un bâtiment d'habitation, qui a été le grand hôtel de cette époque-là, dont le salon de thé, la rotonde. Hein, et, ben, il se passe un événement assez curieux, d'ailleurs, lorsque Diaghilev et Nijinsky qui se trouvent dans ce grand hôtel, c'est que l'hôtel prend feu. Et il y a eu un grand incendie qui est relaté dans les chroniques de l'époque. En 1911, ce bâtiment a pris feu. Évidemment, tous les gens ont été évacués. Et Diaghilev et Nijinsky ne sont pas restés à Beaulieu. Ils sont venus plus vite qu'ils l'imaginaient à Monaco, où d'ailleurs, ils ne se sont pas installés exactement à Monaco. Ils sont installés à Beausoleil. Et le QG des ballets russes, si le studio était à Monaco, le QG des ballets russes était à Beausoleil, au Riviera Palace. Qui a été transformé en appartement depuis, cet extraordinaire bâtiment qui se trouvait à Beausoleil, d'où partait un train à crémaillère qui allait jusqu'à la Turbie. C'est une autre époque, ce fameux train à crémaillère qui restait pendant pas mal d'années et puis qui a été fermé un jour où les freins ont lâché et il y a eu un accident, il y a eu plusieurs morts, le train à crémaillère, donc on l'a pas reconstruit, mais il permettait d'aller de Monaco à la Turbie et il y avait un petit embranchement qui permettait de partir de l'hôtel Riviera Palace pour aller jusqu'à la Turbie. Et donc voilà, c'est là qu'il s'est installé. Beausoleil, d'ailleurs, était une ville relativement récente qui était considérée un petit peu comme un quartier de Monaco, qui avait été, comment dirais-je, urbanisée par le fils de François Blanc. François Blanc était le créateur du casino de Monte-Carlo, de la SBM. Donc, il était mort à cette époque-là et son fils avait pris la relève. Et donc, comme on étouffait un peu à Monaco et qu'on ne savait pas construire comme maintenant sur la mer, il avait imaginé que Beausoleil deviendrait un quartier. D'ailleurs, on appelait ça Monaco supérieur. Et Camille Blanc, le fils de François Blanc, fut le premier maire de Beausoleil. Et donc, c'est là qu'il a accueilli Diaghilev et tout son staff qui commandait les ballets russes depuis le Riviera Palace. Pendant ce temps, Stravinsky continuait à composer Petrouchka. Et c'est là d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là, bien que ça concerne d'ailleurs la vie musicale monégasque, c'est là que Stravinsky a entendu cet air célèbre, populaire, qui s'appelle Il avait une jambe de bois. On s'étonne, les musicologues s'étonnent que dans cette œuvre, Petrouchka, qui décrit un carnaval à Saint-Pétersbourg, une fête de carnaval, il y ait cette chanson populaire française. Et l'explication est extrêmement simple, c'est Stravinsky qui l'a donnée. Quand il était en train de composer Petrouchka à Beaulieu, c'était également la période du carnaval, et il y avait un musicien qui faisait de l'orgue de Barbarie et qui jouait devant sa fenêtre. Et c'est parce qu'il a entendu cela à Beaulieu que dans Petrouchka de Stravinsky, il était une jambe de bois. Voilà, l'explication est très simple. Et c'est une explication qui est donnée par notre histoire, par notre histoire locale. Alors, j'avais envisagé de faire entendre un petit peu de Petrouchka, mais je pense qu'il faut avancer, parce que sans ça, je ne m'en sortirai pas, parce que je vois que le temps passe. Donc, premier ballet des ballets russes, accompagné par notre orchestre de Monte Carlo. Le premier ballet, le tout premier, hein, ça a été le premier, le 9 avril 1911, ça a été Scheherazade, hein, sur des musiques célèbres de Rimsky-Korsakov, le journal de Monaco, hein, dès que Mademoiselle Karsavina, alors c'était la grande danseuse de l'époque, hein, dès que Mademoiselle Karsavina fait son entrée dans la poussière dorée d'un rayon lumineux, drapée dans un nuage de frissonnante mousseline, cette charmeuse ailée, crânant, campée sur ses petits pieds de satin, captive l'attention. On reste en extase devant ses tours de force, et quand on la croit encore abîmée d'amour dans les bras de son compagnon de pointe, elle est déjà tout là-bas, se livrant à des ébats étonnants de hardiesse, de vivacité et de grâce juvénile. Voilà, c'est, hein, voilà, c'était. Alors ça, c'est les ballets russes, mais l'orchestre continue à avoir une vie symphonique, une vie lyrique, et c'est là quand le 17 février, alors on est passé d'une année, hein, le 17 février 1912 a lieu la création d'un autre opéra de Massenet que je crois vous allez, c'est Roma de Massenet, voilà, je crois que vous avez ça en perspective, hein, ça a été créé en 1912 parmi les très nombreux opéras de Massenet et de Saint-Saëns qui ont été créés ici à l'Opéra de Monte-Carlo et qu'on ne connaît pas. Et tout ça, c'est grâce à la richesse de programmation de Raoul Gainsbourg. Toujours en 1912, Raoul Gainsbourg fait donner la première audition en Europe de La fille du Far West de Puccini. La fille du Far West, c'est un opéra qui a été créé à New York par Puccini. Ben, la première fois qu'on l'a entendu en Europe, c'est ici en 1912. En 1912, il se passe aussi un événement tragique qui concerne l'histoire de notre orchestre. Et vous allez voir comment, vous allez être un petit peu étonné d'apprendre cela. Ça a été le 14 avril 1912, le naufrage du Titanic. Le monde est sidéré par le naufrage du Titanic. Et en quoi ça concerne Monaco? Ça, on le sait assez peu, hein. Vous savez que sur le Titanic, il y avait un orchestre. Le fameux orchestre du Titanic, et dont on dit que ce sont ceux qui sont restés le plus longtemps sur le pont, alors que tous les gens partaient, alors que le bateau allait faire naufrage définitivement, les musiciens ont commencé à jouer. Et parmi ces musiciens, il y avait un violoncelliste. Et ce violoncelliste était Roger Bricout. Et qui était Roger Bricout? C'était le fils du corniste de l'orchestre de Monaco de cette époque-là. Vous imaginez à quel point les gens. Alors, il n'était pas né à Monaco, mais il avait fait toutes ses études à Monaco, voilà. Et il faisait même d'ailleurs partie. Il était stagiaire en tant que violoncelliste dans l'orchestre de Monaco, puisque son père l'avait fait rentrer. Et vous imaginez que ce drame qui a consterné le monde entier, bien entendu, le naufrage du Titanic, a concerné particulièrement la communauté musicale de Monaco. Hein, donc, tout l'orchestre était là pour faire une cérémonie en hommage. Et c'est bien de temps en temps de rappeler voilà, que ce musicien qui est resté jusqu'au dernier moment, hein, avant que le bateau ne coule définitivement, était un musicien monégasque. Et on lui rend hommage. Nous sommes en 1913 maintenant, et 1913, dans l'histoire de la musique et l'histoire du ballet, c'est la création du Sacre du Printemps de Stravinsky. Et donc, le Sacre du Printemps... Alors, attendez, non, j'aurais dû passer sur 1911 parce que monsieur de Cotigny m'a apporté là un enregistrement assez extraordinaire. Alors, parmi les ballets qui ont été créés et montés en 1911, il y a un ballet qui a été fait sur le fameux Carnaval de Schumann, cette pièce dans laquelle il y a plusieurs pièces pittoresques, dont les différentes pièces ont été orchestrées par différents compositeurs. Je vois Glazounov, je vois Tcherepnine, etc. Ben voilà, donc en cette année 1911, ici à Monaco, a été donnée cette pièce par les ballets russes et dont on a un enregistrement pour orchestre. Je ne savais pas que ça avait été orchestré, mais merci, monsieur de Cotigny. Peut-être que vous le ferez, oui, allez-y. Oui. Oui. C'est pas oui. Oui. Ah, attendez, on va vous donner le micro. Alors.
Ok, voilà. Donc, Diaghilev a contacté son ami de Saint-Pétersbourg, Rimsky-Korsakov, Nikolaï Rimsky-Korsakov, qui était le directeur du conservatoire de Saint-Pétersbourg, pour lui commander une orchestration du carnaval.
Et qui avait été son professeur, d'ailleurs.
Oui, exactement. Exactement, pour lui commander une orchestration du carnaval de Schumann, parce qu'en prélude au Petrushka de Stravinsky, il avait besoin d'une autre pantomime qui était dans le même style. Et donc, il adorait le carnaval de Schumann au piano. Il a demandé à Rimsky s'il pouvait lui orchestrer. Et la période qu'il lui a donnée était très, très courte. Et Rimsky-Korsakov a répondu, mais ce n'est pas possible. Je ne pourrais jamais faire ça en 3 mois. C'est trop compliqué, tout ça. Je n'accepte pas cette commande, malheureusement, parce que les temps que vous me donnez sont absolument infaisables. Et puis, 15 jours après, il a reçu une autre lettre. Diaghilev a reçu une autre lettre de Rimsky-Korsakov. J'ai une idée qui, si elle vous intéresse, peut vous aider à réaliser votre rêve. C'est-à-dire que je vais convoquer mes meilleurs élèves du conservatoire de Saint-Pétersbourg et je vais donner à chacun un ou deux numéros du carnaval de Schumann. Et chacun partira dans son coin avec une ligne directrice. Et donc Rimsky a orchestré, je crois, le premier, l'ouverture du carnaval de Schumann. Il en a fait un et il a demandé à ses élèves. Donc il a assigné à ses élèves toutes les autres pièces du carnaval, qui durent toutes entre 1 minute et 2 minutes, pas plus, et en disant, donnez-moi, je vous donne un mois pour me donner votre travail. Et il a contrôlé le travail de tout le monde. Et en l'espace d'un mois, il a réussi à obtenir l'orchestration complète du carnaval avec tous ses élèves. Et donc, il a envoyé ça à Monaco. Et c'est la version qui a été faite au ballet de 1911 en ouverture de soirée. Donc, voilà.
Oui, mais écoutez, merci pour ce témoignage.
Alors, et dont on a retrouvé par les hasards comment dire, parce que j'étais toujours fasciné, parce qu'il y avait une affiche dans le bureau de Jean-Christophe Maillot, dans son bureau à Beausoleil, justement, de cette année 1911, où il y avait justement le carnaval de Schumann, et j'ai vu orchestré, et sous le carnaval de Schumann, il y a marqué orchestré, orchestration Rimsky-Korsakov, Liadov, etc., etc. Et ça m'a étonné. J'ai pris une photo de cette œuvre, et j'ai fait des recherches sur l'Internet, et j'ai compris ce qui s'était passé. Et donc, et tout d'un coup, j'ai retrouvé sur l'Internet cet enregistrement qui a été enregistré par un orchestre en Allemagne, Et donc, ce qui nous prouve aujourd'hui que l'orchestration du carnaval de Schumann existe encore, parce que figurez-vous, dans les archives de l'ASBM qui devait avoir l'original de cette orchestration, ça avait disparu. Mais au moins, un orchestre l'avait en Allemagne, ils l'ont retrouvé en Allemagne. Et donc, c'est avec ça qu'ils ont pu faire ce disque. Donc, j'ai parlé avec le chef d'orchestre qui a dirigé l'enregistrement de ce disque, et il m'a dit, si vous ne le trouvez pas, nous avons dans l'archive de notre orchestre, nous avons la partition, donc vous pouvez la voir si vous avez envie de le faire. Voilà, donc.
Voilà, alors, monsieur le directeur...
J'ai dit à Jean-Christophe, s'il veut faire le carnaval de Schumann,
voilà,
avec Petrouchka, il peut le faire, puisque maintenant, on a la partition de...
Voilà, on a qu'à vous demander, alors effectivement, de le faire avec Jean-Christophe Maillot ou, à défaut, le faire avec l'orchestre. Voilà. On attend ça pour l'année prochaine.
Voilà.
Merci beaucoup de
ces
témoignages.
Sur la table.
Merci beaucoup de ces témoignages. Alors, donc, on était en 1911, hein, puisque ça accompagnait la création de Petrouchka. Et là, maintenant, je reviens en 1913, un petit peu plus loin, 1913, la création du Sacre du Printemps. Alors, ça va être un événement considérable. Vous savez l'histoire, le chahut monumental qu'il y a eu lors de la création au Théâtre des Champs-Élysées à Paris en mai 1913 de ce Sacre du Printemps. Mais auparavant, ils l'ont travaillé ici à Monaco. Et il s'est passé des choses lors de la création dans la préparation de ce ballet. Et en particulier, la chose qui a mis hors de lui Nijinsky, qui était le chorégraphe, et Diaghilev, bien sûr, c'est que Nijinska, qui devait danser le Sacre du Printemps, était enceinte. Elle arriva un jour à Beausoleil, là, au Palace, et révéla qu'elle était enceinte, donc elle ne pouvait plus danser le Sacre du Printemps. Alors, Nijinsky a été en colère, Diaghilev également, il a explosé, et ils ont été obligés de trouver une remplaçante, dont je dois avoir le nom ici, parce que je l'oublie toujours, donc cette remplaçante. Oui, elle s'appelait Marie Pilz. Parce qu'on parle toujours de Nijinska. Non, ce n'est pas Nijinska qui a fait la création du Sacre du Printemps. C'est Marie Pilz qu'ils ont trouvé, là, qui faisait peut-être partie de la troupe des ballets russes. Et alors, moi, j'ai lu un jour un texte de Cocteau, ahurissant, dans lequel il décrit avec quelle énergie Nijinsky fait répéter Marie Pilz, parce que c'est une chorégraphie extrêmement moderne, extrêmement difficile. Il paraît qu'il le faisait travailler du matin au soir, il s'énervait, il se fâchait. Et finalement, la création a quand même bien eu lieu au Théâtre des Champs-Élysées, malgré le chahut monstre qui eut lieu ce jour-là. C'est un des plus grands chahuts de l'histoire de la musique et de l'histoire de la danse. Nous sommes en 1913, et en 1913, il y a également un événement qui se passe en Principauté de Monaco, avec un autre compositeur qui était ami du prince Albert Ier, Gabriel Fauré. C'est la création de l'unique opéra de Gabriel Fauré, Pénélope. Hein, Pénélope, c'est comme un événement dans l'histoire de la musique, que la création de Pénélope en 1913, ici à Monaco. Et l'Orchestre philharmonique de Monaco a enregistré ce disque, c'est-à-dire si ça demeure l'enregistrement de référence. Je vais vous faire entendre un extrait de Pénélope de Fauré, une des œuvres majeures qui ont été enregistrées ici et qui ont été créées ici à Monaco. Voilà, je crois que je l'ai ici. Je crois que c'est la dernière scène, là aussi. Le retour d'Ulysse, c'est la fin. Voilà, cette magnifique œuvre qui a été créée. Vous vouliez dire quelque chose ? Exact, exact, absolument, oui, oui, oui. L'enregistrement, absolument, absolument, oui, exact. Voilà, ben ça fait partie vraiment de la grande histoire de notre principauté et de notre orchestre, la création donc de Pénélope en 1913. Alors, Albert Ier, qui suivait quand même toute l'activité musicale, hein, je vous ai raconté la fois dernière, je ne veux pas dire l'intimité, mais l'amitié qu'il avait avec des compositeurs comme Saint-Saëns, comme Massenet, et donc avec Fauré, Albert Ier commanda par la suite une autre œuvre à Gabriel Fauré, qui a été créée ici à Monaco, mais qui n'est plus un opéra, qui est une musique de scène très célèbre, Masque et Bergamasque. Masque et Bergamasque, cette œuvre si célèbre de Gabriel Fauré, a été créée à la demande d'Albert Ier, ici en Principauté. Nous étions en 1913, mais 1914, la Première Guerre mondiale. Le monde a été surpris, bien que ces événements tragiques se préparaient. Le monde a été quand même surpris par cette déclaration de guerre. Et évidemment, la vie du monde est arrêtée, concentrée sur ce drame qui va durer 4 ans. Lorsque la déclaration de guerre est faite, Albert Ier, qui est en train d'explorer les Açores là, pour ses recherches océanographiques, revient précipitamment en principauté. Mais la vie de la musicale de la principauté, la vie artistique de la principauté, n'est quand même pas arrêtée. Hein ? On pourra constater que jamais la vie artistique de la principauté de Monaco n'a été arrêtée, ni pendant la Première Guerre mondiale, même si elle était au ralenti, ni pendant la Deuxième Guerre mondiale, ni pendant le Covid. Ni pendant le Covid. Voilà, ça c'est vraiment une particularité de la principauté de Monaco. Et il y a même eu des événements considérables qui sont passés pendant la Première Guerre mondiale. Par exemple, la création d'un opéra Béatrice de Messager. Alors André Messager était un grand compositeur de l'époque, hein, grand chef d'orchestre aussi. En 1915, pendant la guerre aussi, la venue d'un grand chanteur qui était Caruso. Hein, Caruso était le plus grand chanteur de l'époque. Caruso avait pratiquement débuté sa carrière ici à Monaco, grâce à Gainsbourg, hein, lorsqu'il avait 30 ans. Là, il en avait une quarantaine, donc c'était... il avait 40 ans, oui. Donc, c'était une dizaine d'années plus tard. Et il y avait une fidélité à Gainsbourg, et il avait dit qu'il reviendrait chanter à Monaco. Et là, il se trouvait à New York, hein, pendant la guerre. Et bien, il avait traversé l'Atlantique et la Méditerranée spécialement pour venir chanter à Monaco. C'était donc en 1915, le 11 mars 1915, très, très exactement. Et il avait chanté Aïda avec une grande chanteuse de l'époque qui s'appelait Felia Litvin. Et il avait fait cette traversée de l'Atlantique qui était dangereuse. Qui était dangereuse. Il avait fait par amitié pour Gainsbourg. Et c'était quelque chose de remarquable. En passant par un petit peu le sud de l'Atlantique, parce que le nord de l'Atlantique était vraiment dangereux. Ben, vous savez qu'un grand compositeur est mort. C'est Granados, vous savez, le grand compositeur espagnol, est mort en traversant l'Atlantique lui aussi, parce que son paquebot a été bombardé par une canonnade allemande. Hein, donc, c'était dangereux de traverser l'Atlantique. Et bien, Caruso était venu à cette époque-là. Et puis, ma foi, et bien, les ballets russes continuent aussi. Hein, bon, je ne vais pas vous citer tout ce qui se passe dans les ballets russes, parce que ça serait quelque chose d'assez fastidieux. Mais Diaghilev continue. Il continue, mais comment dirais-je, il s'est passé un événement très douloureux dans sa vie. Je vous ai dit qu'il était le petit ami de Nijinsky. Et à cette époque-là, Nijinsky l'a trahi, il s'est marié. Alors, quelle catastrophe. Alors, évidemment, Diaghilev l'a répudié. Il l'a... il l'a remplacé par Massine, par Léonide Massine, hein, qui était un autre danseur et chorégraphe russe. Mais bon, ça a été un grand drame. Et d'ailleurs, Nijinsky a eu donc un enfant, une fille, qui a épousé un chef d'orchestre dont vous connaissez le nom, qui est Igor Markevitch, qui a été l'un des directeurs de notre orchestre. Hein, ça, on est un petit peu à l'époque contemporaine. Moi, j'ai travaillé avec Markevitch ici. Enfin, j'ai connu beaucoup. Enfin, on connu Markevitch. Voilà. Donc, les ballets russes continuent, mais Diaghilev est en deuil de Nijinsky. C'est encore en 1917, donc toujours pendant la guerre, qu'est créé un grand opéra ici à Monaco, qui est la Rondine de Puccini. Ah, un événement considérable. Un opéra de Puccini qui est créé ici à l'Opéra de Monaco. En quelles circonstances? Eh bien, c'est parce que cet opéra, qui est un, je ne veux pas dire un opéra comique, mais un opéra plus léger, dont une partie de l'histoire se passe d'ailleurs sur la Côte d'Azur. C'est un opéra plus léger que les grands opéras de Puccini, avait été commandé par l'Opéra de Vienne. Et évidemment, la guerre étant là, l'Opéra de Vienne avait annulé la création de cet opéra. Et donc, Raoul Gainsbourg, qui cherchait toujours les bonnes occasions, avait fait venir Puccini ici. Et la création de cet opéra eut lieu en 1917, donc pendant la guerre. La guerre se termine. Et je crois qu'on va être, on va arriver presque au bout de notre temps. Temps, oui, et donc je vais terminer par quand même la création qui va nous concerner cette année, la création en 1925 de L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, hein, qui va être donnée bientôt ici à Monaco, qui fait partie de la programmation de cette année. Mais auparavant, il faut que je vous dise, puisque je situe tout cela dans la vie de la principauté, que la guerre terminée en 1918, les Monégasques se posent une grande question. Et non seulement les monégasques, mais également toute la vie politique européenne. Tout le monde constate que Louis II... Alors, c'est toujours Albert Ier qui y règne, mais Albert Ier devient âgé, et on se dit que Louis II va lui succéder, mais Louis II est célibataire et n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? La dynastie Grimaldi peut s'éteindre. Et tout le monde commence à s'inquiéter. Non seulement ici à Monaco, mais autour de Monaco, en particulier le président de la République française qui s'appelle Raymond Poincaré. Parce que si la dynastie directe, s'il n'y a plus de descendance directe, on constate que la principauté de Monaco va passer entre les mains d'un descendant de la fille d'Antoine Ier, c'est un petit peu compliqué, qui est un prince allemand. Alors, confier la principauté de Monaco au sortir de la Première Guerre mondiale à un prince allemand, c'est pas bien. Donc, tout le monde s'inquiète de cela, et en particulier le président de la République, Raymond Poincaré. Alors, on sait que le prince Louis II est célibataire, bien sûr, sans enfant officiel. Mais il a une fille non officielle qu'il a eue lorsqu'il faisait son service militaire en Afrique du Nord. Il a eu avec une blanchisseuse, Charlotte. Et le prince Albert Ier dit, voilà la solution en fait. On va légaliser la fille illégitime et puis elle sera l'héritière de la famille Grimaldi. Et c'est ce qui se passe en 1918. Alors, ce fut évidemment un événement considérable dans la vie de la principauté. Et c'est l'année suivante, le 20 mai 1919, que la princesse Charlotte est reconnue par Albert Ier et devient l'héritière de la famille Grimaldi. Bon, une héritière, c'est déjà ça, mais ça serait mieux si elle avait un mari. Et puis, si elle avait un fils, ça, il y aurait un prince homme masculin. Donc, on va lui trouver un mari. Et ce mari, Eh bien, on va le trouver dans la famille Polignac, le prince Pierre de Polignac. Le prince Pierre de Polignac, qui doit accepter quelque chose de considérable, d'abandonner son nom pour devenir Grimaldi. Ouais, c'est un truc un peu artificiel qui se fait là. Hein. Et donc, le prince Pierre devient le prince Pierre Grimaldi en épousant Charlotte, qui a été officialisée. Et alors, on attend, bien entendu, que maintenant, le couple princier ait un enfant. Alors, un enfant vient au monde, c'est une fille, la princesse Antoinette. Puis un second enfant vient enfin au monde, le prince Régnier, le futur prince Régnier, donc le père de notre actuel souverain. Et lorsque le prince Régnier... Alors, c'était quand même pourtant officiellement Charlotte qui était toujours officiellement l'héritière qui devait devenir la princesse de Monaco, mais elle a abdiqué ses droits lorsque Régnier a été majeur, donc, et donc c'est Régnier qui a pris la succession et qui a été ce prince extraordinaire, le prince bâtisseur que nous avons connu. Et voilà, et là, on est vraiment dans notre époque contemporaine. Donc, comment dirais-je, cet événement considérable dans la vie de la principauté de Monaco au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il n'empêche que la vie artistique continue, les programmations continuent, le Léon Géin, aussi riches les unes que les autres, que je vous dis, ça serait fastidieux que je vous lise la liste des programmes, avec surtout des compositeurs modernes de l'époque que l'on ne connaît plus aujourd'hui, hein, parce qu'il y avait beaucoup de musique moderne à cette époque-là, de musique, je pense, certainement inintéressante pour certaines, mais passionnante pour d'autres, c'est cela. Lorsqu'on fait de la création contemporaine, on ne garantit pas à chaque programme qu'il y a une œuvre, un chef-d'œuvre, mais bon, on explore les compositeurs de l'époque, et c'est ce que faisait Léon Géin. Il y a eu également, avec Raoul Gainsbourg, plein d'opéras qui ont été oubliés, même d'opéras de lui-même, parce que lui-même était compositeur. Et puis il y a eu, alors ce avec quoi nous allons terminer, il y a eu en 1925, c'était il y a 100 ans, exactement le 21 mars 1925, L'enfant et les sortilèges de Ravel. Nous allons terminer là-dessus, puisque ce sera au programme le mois prochain de la principauté de Monaco, à la fois de l'orchestre et de l'opéra. Et donc, cette œuvre, à l'origine, devait être donnée à l'Opéra de Paris, mais là encore, ben, je pense à la suite de la guerre, là, Raoul Gainsbourg l'a récupérée pour Monte-Carlo, il a bien fait. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un opéra un petit peu léger, hein, qui raconte l'histoire d'un enfant qui est fâché avec tout le monde, qui est fâché avec son entourage, qui est fâché avec ses animaux domestiques, qui est fâché avec ses meubles, voilà, à la fois avec son entourage physique et domestique. Et puis tout se finit bien à la fin, bien entendu, puisque c'est un opéra au sujet léger. Et qui est l'auteur de l'histoire ? C'est Colette. Hein, Colette, c'est cette écrivaine qui a fréquenté si souvent la principauté de Monaco, où elle était venue d'ailleurs comme actrice, puisqu'elle était également actrice. Donc, dans les programmes du théâtre de Monaco, on voit souvent le nom de Colette. Et donc là, elle vient en tant qu'écrivaine. Et en quoi cela concerne Raoul Gainsbourg, Serge de Diaghilev ? C'est que Serge de Diaghilev avait été sollicité pour ces ballets russes pour assurer les passages dansés, parce qu'il y en avait, de L'enfant et les sortilèges. Et là, ça se passa très mal. Parce qu'il se trouve que Diaghilev et Ravel s'étaient fâchés à la fin de la Première Guerre mondiale, parce qu'avant la guerre, Diaghilev avait commandé un nouveau ballet à Ravel. Nouveau ballet parce qu'il avait commandé en 1912 un ballet célèbre, Daphnis et Chloé. Daphnis et Chloé qui avait été vraiment une des gloires des ballets russes. Donc Diaghilev, assez logiquement, avait demandé à Ravel de composer un nouveau ballet. Il lui avait même donné le sujet. Le sujet, c'est un ballet sur la danse, un peu sur l'histoire de la danse, qui rendrait hommage à la valse de Johann Strauss, à la valse viennoise. Et Ravel avait dit, très bonne idée, hein, très bonne idée, oui, oui, absolument, je vais composer ça. Et puis arrive la Première Guerre mondiale. Ravel était un grand patriote, il avait été réformé à cause de sa petite taille, hein, mais s'est engagé quand même dans l'armée, il avait forcé son destin en tant qu'ambulancier, enfin il avait été blessé, ça, et ça a été une très 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 mauvaise période, il avait perdu sa maman aussi à cette époque-là. Et donc quand la guerre a été finie, Diaghilev demande à Ravel, ben voilà, où est-ce que vous en êtes de la composition de votre ballet sur la valse? Ravel a dit non, c'est fini. Après le drame que le monde a connu, je ne peux plus composer une œuvre joyeuse. Je veux bien rendre hommage à la valse, mais c'est la valse de la fin d'un monde. Et il composa effectivement cette œuvre que nous connaissons, qui est la valse, hein, ce chef-d'œuvre hein, que l'orchestre a souvent joué ici, hein, ce chef-d'œuvre, mais qui raconte un peu vraiment la fin d'un monde, la fin d'un monde heureux. C'est fini, après la Première Guerre mondiale, on ne peut plus se réjouir comme Diaghilev aurait voulu que ce soit. Et Ravel fait entendre cette œuvre à Diaghilev, et Diaghilev dit, non, c'est pas une œuvre pour danser, gardez cette œuvre, je n'en veux pas, etc. Donc Ravel avait été très vexé. Hein, parce que Ravel avait imaginé peut-être un ballet plus tragique, comme ça. Mais Diaghilev avait rejeter sa partition. Alors, la valse est un chef-d'œuvre hein, que l'on joue souvent, que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a souvent joué, mais elle n'a pas servi de musique de ballet. Donc, Diaghilev et Ravel sont fâchés. Et cela, ça va s'entendre au moment de la création de l'Enfant et le Sortilège ici à Monaco en 1925. Certains témoins, alors des témoins, les ont vus se fâcher dans le hall de l'hôtel de Paris. Là, ils se sont fâchés. Et certains témoins rapportent, mais on ne sait pas, hein, que l'un a giflé l'autre. Donc, si c'est le cas, c'était une des gifles les plus extraordinaires de l'histoire de la musique. Mais enfin, on ne sait pas si la gifle a eu lieu, mais en tous les cas, ils refusaient de se saluer et ils étaient à cran l'un par rapport à l'autre. Et cela a des conséquences, parce qu'on prépare pour la fin du mois de mars la création de l'Enfant et les Sortilèges, et Diaghilev dit non, il n'y aura pas mes danseurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Raoul Gainsbourg va se fâcher, et il va écrire à René Léon. Alors, René Léon, c'est le directeur de l'ASBM. Et pour demander, mais écoutez, il faut que vous arrangiez ça, ce n'est pas mon affaire, essayez de faire un acte d'autorité. Alors voici la lettre de Raoul Gainsbourg. Le maître de ballet de M. Diaghilev vient de rapporter au régisseur de musique de l'Enfant et les Sortilèges qu'il retirait ses danseurs. Il paraît que ce refus est la suite d'un geste de M. Ravel qui aurait refusé de donner la main à M. Diaghilev dans le hall de l'hôtel de Paris. Peut-être qu'il l'a giflé, mais enfin, en tous les cas, il a refusé de donner la main. Je vous prie d'user de votre autorité pour faire comprendre aux danseurs que ni monsieur l'administrateur de la SBM ni le directeur de l'opéra n'ont à s'occuper des sentiments personnels d'un maître tel que monsieur Ravel, qui doivent immédiatement se mettre au travail, car le temps presse à ce point que même si vous vouliez engager un autre ballet, il n'aurait matériellement pas le temps d'être prêt dans 5 jours. Ah, hein. Et on ne sait pas, même, vous voyez comment on traite même des grands compositeurs comme Boris Ravel. Alors, Monsieur René Léon, directeur de l'ASBM, prend la plume et il écrit à Diaghilev. Mon cher directeur Diaghilev, je reçois à l'instant une réclamation de Monsieur Gainsbourg, directeur de l'opéra. Je tiens à vous mettre en garde contre la gravité de votre refus de faire danser vos danseurs. Votre contrat vous oblige à fournir les ballets à l'opéra sans que des questions personnelles puissent intervenir. L'ASBM, en cas de carence, se verrait dans l'obligation de suspendre vos paiements et de vous demander dommages et intérêts. Hein, ça chauffe, hein, hein. Même avec des gens comme ça. Diaghilev envoie son avocat. Réaction de René Léon. J'ai eu la surprise de recevoir ce matin la visite de votre avocat. Il me priait de bien vouloir aller trouver M. Ravel pour l'insister à collaborer avec vous. Au sujet de votre lettre par laquelle vous m'informez que la musique de M. Ravel est trop compliquée, parce que voilà, il disait la musique de Ravel est trop compliquée, lui qui avait fait danser sur le sax au président de Stravinsky. Hein. Bon. Il est vraiment curieux que ces difficultés vous soient apparues quelques heures après un incident que vous auriez eu avec M. Ravel dans le hall de l'hôtel de Paris. Je suis désolé de vous annoncer qu'en cas de carence de votre part, votre rupture de contrat entraînerait à la fois de la part de la SBM une demande en dommages et intérêts avec la cessation des versements que nous avons à vous effectuer. Je serai également dans l'impossibilité absolue de demander à mon conseil d'administration le renouvellement de votre contrat pour l'année prochaine. On ne sait pas, nous, dans le public. Hein. Les directeurs, eux, ils savent. Hein, ils sont parfois confrontés aux caprices, aux difficultés des artistes. Mais nous, on ne le sait pas. Nous, on en assiste. Vous voyez hein, c'est que... ah. Et alors, finalement, évidemment, Diaghilev revient sur sa décision de ne pas faire danser, finalement. Ça a eu un succès magnifique hein, dans le journal de Monaco. Hein. Il y a une critique. Hein. Ravel reçoit les ovations prolongées du public. Du haut de la loge princière, il vient trois fois appelé par l'enthousiasme général saluer le public. Voilà. Donc, mais il y a eu une petite suite un peu inattendue. Parce que Raoul Gainsbourg, qui avait... Bon, il avait beaucoup d'amis, mais parmi ses amis, il avait une comtesse, qui était amie de Marcel Proust. Et dont Marcel Proust est inspiré pour un des personnages de La recherche du temps perdu. Et comme on écrit à des amis comme ça, Raoul Gainsbourg écrit donc à cette comtesse, je suis mécontent de ce qui s'est passé. Le prince Pierre de Polignac, hein, qui veillait un petit peu sur l'Azard en principauté, aurait dû faire acte d'autorité. Enfin, il n'a pas l'autorité nécessaire, quelque chose comme ça. Bon, c'est ce qu'on dit comme ça à ses amis. Seulement, là encore, dans le hall de l'Hôtel de Paris, au restaurant de Paris, la comtesse en question perd la lettre. Quelqu'un la ramasse et se fait un plaisir de l'amener au prince de Polignac. Et donc, le prince de Polignac va voir son beau-père, Louis II, et demande la démission immédiate de Raoul Gainsbourg. Et Raoul Gainsbourg dit, d'accord, mais vous me devez 5 millions de dommages et intérêts. Il est resté à la tête de l'opéra. Et on a créé... On a créé L'Enfant et les Sortilèges, dont nous allons entendre pour terminer un extrait. J'avoue que je ne sais plus du tout lequel. Ah si, je crois que c'est la théière. Oui, donc je vous ai dit que dans cet opéra, ce sont les objets qui s'animent, qui se fâchent contre l'enfant. Et donc, il y a les objets sont incarnés par des personnages. Et c'est la théière. Ben, je crois que voilà. Ouais, ça passe un peu de jazzy.
How's your mag? Rotten. Better head. Come on.
Version anglaise. Ça me fait...
Black and costo, black and cheap, black, 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 jolly fellow, jolly fellow, black. I can't suffer. I punch and knock out your stupid shoes. Black, 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 deep and rainbow girls and rainbow girls. I bought you.
Oh, yeah, go on.
voilà, c'est la théière dans L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. Alors, ce n'est pas l'heure de prendre le thé, c'est plutôt l'heure de prendre l'apéritif. Donc, je vous souhaite un bon appétit et merci d'être venu. Alors, simplement vous dire que je ne sais pas les dates suivantes, c'est nos amis qui ont les dates suivantes, mais je pense que dans l'histoire maintenant, nous arrivons à la période presque moderne et nous allons faire appel la prochaine fois à des témoignages de musiciens, de musiciens anciennes qui ont connu l'histoire de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo après la Deuxième Guerre. Voilà, et donc on va essayer d'inviter un maximum de personnalités. Voilà, c'est comme ça que nous allons terminer cette année. Je crois qu'on a encore deux séances, on avait prévu deux séances. Oui, ah.
Le 3 avril.
Le 3 avril, oui. 3 avril et 15 mai, donc on va faire venir. Là encore, si vous avez des témoignages, si vous connaissez des gens qui ont participé à la vie de l'orchestre, on est preneurs. On a reçu déjà pas mal de témoignages, dont les Serres Lechner, hein, qui étaient là, absolument. Oui, j'ai oublié. Lorsque je parlais de naissance de Régnier III tout à l'heure, j'ai oublié de signaler que cela s'est fait, enfin du moins que ces premiers jours se sont faits certainement au son d'une berceuse qui avait été composée par le grand percussionniste de l'époque, le prédécesseur de Julien Bourgeois, et qui était Jules Lechner, voilà, et qui avait composé une magnifique berceuse que nous avons entendue il y a un mois ou il y a deux mois ici, voilà, parmi les témoignages que vous nous avez apportés. Merci beaucoup, et donc on vous tiendra au courant. Hein. Merci.